Il s'est passé quelque chose. Bonjour à vous toutes, à vous tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est... Non, hein, je crois qu'au fond, c'est pas assez fort. Alors, je ne sais pas s'il y a un magicien, technicien. Il est là. Cher monsieur, voilà, c'est parfait là, je crois. Tout le monde entend. Merci d'être là. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette deuxième année du cycle Temps présent qui... explore un grand problème contemporain, un problème de l'actualité. L'an dernier, nous avions eu ce cycle autour des pays de l'Est et puis l'anniversaire, la chute du mur de Berlin. Cette année, eh bien, nous avons, c'est pas très original, vous allez me dire, mais malgré tout, c'est quelque chose de très important aujourd'hui qui, j'allais dire, qui mine un peu notre quotidien. C'est cette question de la guerre et des nouveaux visages de la guerre. Vous avez entre les mains de très bonnes lectures avec ce numéro spécial du 1 que nous avons fait avec le commissariat général de la foire de Brive de François David sur ces nouveaux visages de la guerre. Et j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir, j'allais dire, un des piliers du 1 depuis sa création il y a presque 10 ans, qui est Michel Fouché. Merci beaucoup, Michel, d'avoir pris la route, pris le volant. Vous n'avez pas été comme nous, un peu feignants, qui avons pris un train ce matin à Paris et on s'est laissé porter et transporter. Donc, Michel est venu pour inaugurer ce cycle. Michel Fouché est un diplomate, est un géographe. Il y a beaucoup de choses à dire sur Michel Fouché. Il a été directeur du CAP, vous savez, le Conseil d'analyse prospective du Quai d'Orsay. Donc, il a parlé à l'oreille de beaucoup de ministres et de responsables de la diplomatie française. C'est un as des cartes. Je vous mets au défi de le piéger sur n'importe quel endroit du monde. Il va pouvoir vous dire où il est, ce qui s'y passe, ce qui s'y est passé et peut-être ce qui s'y passera encore demain. Alors, dans ce numéro spécial du 1, vous pourrez lire le grand entretien que nous avons mené avec lui. Et précisément, vous voyez les deux derniers ouvrages de Michel Fouché, un des tracts Gallimard et un livre que nous faisons, le 1, avec les éditions de l'Aube, autour du... Est-ce que c'est une guerre coloniale, cette guerre d'Ukraine? Alors, j'avais envie de commencer comme ça avec vous, Michel. C'est qu'est-ce qu'on peut dire, comment vous pourriez caractériser cette guerre qui nous occupe depuis février 2022, qui a été qualifiée d'opération spéciale par Vladimir Poutine, comme s'il ne fallait pas dire le mot guerre. Quel est le visage de cette guerre 9 mois, 10 mois après?
Le visage de la guerre, c'est que la population russe est bien obligée de se rendre compte qu'il y a une guerre. Parce qu'on est dans un régime de mensonges, c'est pas nouveau. C'est pour ça que c'est si compliqué pour nous, hein, le rapport à la vérité, mais c'est pas nouveau dans ce type de régime. Il y a beaucoup de choses à dire, donc la difficulté, c'est d'essayer de à la fois de clarifier et de hiérarchiser. En tant qu'Européen, il y a quelque chose d'impardonnable qui a été fait le 24 février, avec des prémices naturellement, c'est le retour de la guerre sur le continent. Notre mode de vie, si j'ose dire, international en Europe, après l'apocalypse de la Seconde Guerre mondiale, c'est le plus jamais ça. Ça s'applique à la Shoah, bien sûr, mais ça s'applique aussi aux relations entre nous. Et c'est passé par la réconciliation, laquelle est passée par un travail de repentance et d'examen critique et de procès dans l'Allemagne nazie. Ce travail n'a pas été fait complètement ailleurs, notamment en Autriche ou en Italie. Visiblement, le travail n'est pas complètement terminé. Nous, on a du mal avec l'Algérie, mais... Vous voyez, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est-à-dire que notre système de relations entre nations, souvent rivales, notamment au plan économique ou diplomatique, est fondé depuis 45-50 sous la protection du grand allié américain sur ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la réconciliation des relations pacifiées, qui sont passées par ce travail d'examen critique. Ce travail n'a jamais eu lieu en Russie. Et d'ailleurs, une des preuves, c'est la dissolution de l'association Mémorial en Russie quelques semaines avant le 24 février. Autrement dit, je dirais, cette décision inacceptable est tout à fait symptomatique de l'impossibilité des élites russes de projeter sur leur passé un examen critique. Un examen critique du stalinisme. Aujourd'hui, Staline a été réhabilité. Et donc, non seulement ce travail n'a pas été fait, et je doute qu'il soit fait un jour, mais en plus, jamais les élites russes n'ont dit « plus jamais ça ». Et donc, il y a eu un peu de répétition en Géorgie, en Tchétchénie, de guerre au Daghestan, en Syrie, en Moldavie. Donc là, on est face à quelque chose qui est une guerre d'agression décidée au plus haut niveau, pensée depuis extrêmement longtemps. C'est quelque chose qui mûrit dans la tête des élites russes depuis 2005-2007. Mais ça, cette histoire reste à écrire dans les détails. Donc il y a un dessin qui s'est aggravé pendant le Covid, parce que le Covid a marqué la fin de la diplomatie. On ne peut pas faire de diplomatie par visioconférence. Je crois savoir de quoi je parle. Donc, une guerre d'agression à l'égard ou contre un peuple qui a longtemps fait partie du monde russe et du monde polonais et du monde ottoman, qui s'émancipe comme nation, c'est l'histoire de l'Europe depuis toujours. Mais si l'Ukraine, je le dis très pour aller vite, hein, devient un État-nation indépendant, souverain et reconnu, c'est la fin de la Russie comme empire. Ce n'est pas la fin de la Russie comme État-nation, c'est la fin de la Russie comme empire. Et je le montre, je dirais, clairement, avec d'autant plus d'intérêt que ça se passe sur le sol européen et qui se trouve, puisque vous avez, cher Eric, rappelé un passé de diplomate, que quand j'étais conseiller spécial du ministre des Affaires étrangères, à l'époque de la cohabitation, Jospin Chirac, mon premier voyage officiel en juillet 1998, donc il y a déjà 24 ans et demi, c'était à Kiev, à l'époque on disait Kiev. À l'époque, on disait Kiev parce qu'en France, on a toujours vu l'Ukraine à l'ombre de la Russie. On n'a jamais voulu voir l'Ukraine comme un sujet indépendant. Je ferme la parenthèse. Il s'agissait de préparer le voyage de Jacques Chirac à Kiev en septembre 1998. Premier voyage d'un président de la République française dans l'Ukraine indépendante. Il nous a fallu 7 ans pour monter ce voyage. Pas nous, mais... Parce qu'on ne voulait pas gêner Moscou. Il ne faut jamais gêner Moscou. Voyez, on n'a rien en échange, mais bon. Donc il s'agissait de préparer. Et les deux questions qui étaient déjà posées avec le président Kouchma, c'était un coup de pouce de la France au Fonds monétaire international pour allonger le milliard de dollars qui manquait. Ce n'est pas nouveau, on continue de le faire maintenant. Et puis, les questions de sécurité. Déjà, en 1998, on parlait des problèmes de garantie de sécurité pour l'Ukraine indépendante, dont la souveraineté et l'intégrité territoriale avaient été reconnues par 2 fois par Moscou, en 1991 et en 1994, en échange du transfert des 600 têtes nucléaires soviétiques sur le sol ukrainien. C'était d'ailleurs une exigence de la France, des États-Unis, du Royaume-Uni, hein, que d'obtenir ce transfert. Mais en échange de ça, la Russie s'engageait à reconnaître l'intégrité territoriale. Donc, en fait, la question de la sécurité était posée parce que les gens d'Europe centrale et orientale ont la mémoire plus longue que nous et savent qu'il y a à l'Est un peuple ou une élite, disons, qui n'est pas dans cette logique de repentance, d'examen critique et de réconciliation. Oui. Donc, la menace est là.
Alors, Michel, merci pour cet exposé liminaire qui éclaire beaucoup le contexte de ce conflit. Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots les ressorts, c'est-à-dire qu'est-ce qui anime Vladimir Poutine, et les moyens, c'est-à-dire, on parle, il y a une expression assez nouvelle, mais vous nous direz qu'elle remonte aux années 2005 avec l'état-major américain, on parle aujourd'hui de guerre hybride. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il veut et comment fait-il la guerre ?
Il veut la destruction de l'Ukraine, la reconstitution du monde russe.
D'ailleurs, vous dites, pardon, dans l'entretien, que ceux qui l'envoient à la guerre sont les non-russophones.
Alors, ça, c'est un autre sujet. Des non-russes ethniques. Ouais. Ce qu'il voulait, c'était installer le clone de Loukachenko à Kiev en quelques jours, avec une opération spéciale.
Loukachenko, président de la Biélorussie.
Biélorussie. Donc, satelliser à nouveau l'Ukraine, grand sécurité, l'OTAN, mais c'est un prétexte, reconstitution du monde russe. Donc, je ne vais pas, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais c'est une obsession du titulaire du Kremlin. J'essaye de le nommer le moins possible, ce type funeste. Titulaire du Kremlin. Pour combien de temps, je ne sais pas. Son obsession depuis 2005, c'est de reconstituer le monde russe. Quand il dit que la fin de l'Union soviétique est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, devant la Douma en 2005, nous n'avons pas compris ce qu'il nous a dit. Nous, on a compris, l'Union soviétique n'est plus le deuxième super grand. Mais c'est, nous, on a toujours tendance à projeter notre propre grille de lecture sur les autres. Mais c'est, vous voyez, on fait beaucoup, beaucoup d'erreurs d'analyse par autosatisfaction, par hubris, par ignorance. Enfin, il y a des tas de raisons. Donc, on ne comprend pas ce que l'autre dit. Ça fait depuis 2005, on ne comprend pas ce que le titulaire du Kremlin nous dit. Et ce qu'il nous dit, c'est que la catastrophe, c'est que les Russes sont dispersés au Kazakhstan, en Ukraine, dans le Caucase, dans les pays baltes, en Biélorussie, et qu'il faut c'est l'équivalent du pan-germanisme de 1933. C'est du pan-russisme, c'est un nationalisme agressif d'un État qui se pense comme un empire. Donc l'objectif, c'était ça. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je ne sais plus quel est l'objectif. C'est d'éviter la défaite dans la bataille à venir à Kherson et sur la rive droite du Dniepr. C'est d'éviter une défaite militaire, parce que dans l'histoire de la Russie, les changements de régime ne sont jamais venus de l'intérieur, mais toujours sous l'effet de défaites extérieures, de la guerre de Crimée à l'Afghanistan, en passant par Tsushima en 1905, la défaite de l'armée rouge sur le front polonais contre l'Allemagne en 1917. Le contre-exemple, c'est Staline en 1945, la grande guerre patriotique, renforcement du régime en 1945 jusqu'en 1953. Donc, en fait, la défaite militaire, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux, si vous voulez, pour qu'il y ait un changement de régime au Kremlin. La guerre hybride, c'est au fond... Alors,
c'est l'état-major américain au début qui définit ça.
Sur l'Ukraine, c'est-à-dire c'est l'idée d'intégrer d'autres, de plier, d'amener l'autre à votre volonté, avec des moyens qui ne sont pas tous militaires. Donc, mais le terme, si vous voulez, n'a pas de... C'est un adjectif un peu flexible, un peu hybride lui-même, si j'ose dire. Mais quand même, là, on le voit bien, il s'agit d'abord d'utiliser, au fond, la richesse de notre système démocratique, qui est transparent, ouvert, souvent un peu trop transparent, fondé, connecté et dépendant. On était dépendant des matières premières russes. Ça, c'est terminé. C'est la mort. Poutine a, là, j'étais obligé de le citer pour lui rendre hommage, en quelque sorte, a décrété la mort des énergies fossiles. Tout le monde a compris qu'il fallait faire autre chose que d'avoir un modèle économique dépendant d'énergie à bon marché, importée de pays qui ne nous veulent pas du bien. Cette arsenalisation de l'énergie est une catastrophe. Donc, mais nous sommes dépendants, nous sommes connectés, nous avons des câbles sous-marins, nous avons aussi des hôpitaux, nous avons... et il y a eu des attaques depuis plusieurs semaines sur 4 ports européens, 2 gazoducs au large du Danemark et un oléoduc en Pologne. Des aéroports, y compris d'ailleurs un aéroport américain, plusieurs hôpitaux, l'hôpital de Villefranche. Alors, ce n'est pas directement le Kremlin, ce sont des groupes criminels russes qui sont actionnés. Lorsque Biden rencontre le titulaire du Kremlin en Genève en juin 2022, il ne parle pas de l'Ukraine à ce moment-là, Biden dit, écoutez, les attaques, il donne la liste des cibles américaines qui ne doivent plus faire l'objet d'attaques. Et là-dedans, il y a les aéroports, il y a Walmart, tous les réseaux de distribution. Tout ce qui est connecté, tout ce qui fait la vie des gens. Donc, si vous voulez, notre système extrêmement ouvert, dépendant de libre circulation, est exploité. Donc, il y a des attaques contre les réseaux, en quelque sorte. Il y a évidemment aussi toute cette propagande à travers les fameux réseaux sociaux où on arrive à ne plus savoir ce qui est vrai. Et ça, c'est tout à fait désastreux. On en voit le résultat aux États-Unis. Je vais vous donner un exemple très clair. qui est cité par mon collègue Jérôme Bonafont, qui était conseiller diplomatique de Jacques Chirac. Il relate un entretien entre Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, et Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de Russie, à propos de l'engagement russe en Russie, en Syrie, excusez-moi. Et Fabius, à un moment de la conversation, en tout petit comité, mais Bonafont était là, il prenait des notes. Il y a toujours quelqu'un qui prend des notes. Fabius prend Lavrov en défaut, en état de mensonge sur du style « nous ne bombardons jamais les civils et nous n'attaquons pas Idlib », un truc comme ça. Réponse. C'est tout à fait passionnant, parce que ce n'est pas seulement le Kremlin. Réponse. Je cite la prise de note. La Russie est une nation souveraine. Elle décide donc de ce qui est. Il y avait une bouteille de jus d'orange sur la table. Il dit à Fabius, tu vois cette bouteille de jus d'orange, si je décide qu'elle est bleue, elle est bleue, et tu ne pourras pas me faire changer d'avis. Donc, si vous voulez, on est dans quelque chose avec quoi on ne peut plus... Au fond, c'est ça, la guerre hybride. La guerre hybride, c'est de dire à Eric, ça, c'est pas de l'eau, hein, c'est de la bière. C'est de la bière de Brive.
Au nom de votre souveraineté.
Au nom de ma souveraineté. Ouais. Et tu ne pourras pas me faire... C'est de la bière. Donc, à partir du moment où on n'est pas d'accord sur le sens des mots, sur la qualification des situations, on ne peut être que dans la confrontation. C'est la mort de la diplomatie. Il n'y a pas que le Covid qui a tué la diplomatie. Il y a un rapport au réel. Alors, notre expérience, c'est que les psychanalystes le disent, c'est qu'il y a toujours un retour du refoulé et le réel finit toujours par se venger. Combien de temps, je ne sais pas.
Alors, vous dites, Michel, que y a, dans la guerre hybride, il y a cette guerre aussi informationnelle, il y a la propagande. Et ce que vous expliquez, c'est que les pays occidentaux ont observé ce que faisaient les Russes dans la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce qui a été justement cette espèce de jeu de poker menteur et qui a été un élément de ce conflit, de ces tensions ?
Oui, alors c'est surtout, oui, mais c'est aussi l'état-major français des armées qui a observé le premier conflit, bon, qui est un conflit de reconquête des territoires perdus par l'Azerbaïdjan en 88, hein, à l'époque encore de l'Union soviétique. Et donc, il y a l'élément de bataille, mais il y a un élément de communication. Il y a le renseignement, naturellement, mais il y a aussi un élément de communication qui vise en gros à dire que l'armée arménienne n'est pas prête, que le rapport de force est très défavorable, que ce n'est pas la peine d'aller sur le front. L'idée est en fait à l'avance que la guerre est perdue. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse énormément les stratèges français, hein, d'où le titre, je crois d'ailleurs, que vous avez donné à l'entretien que nous avons eu.
Hein, gagner la guerre sans faire la guerre.
C'est-à-dire introduire des éléments de communication, d'influence, semer la discorde chez l'ennemi, dans l'esprit de l'ennemi. D'ailleurs, les Ukrainiens font ça très bien également, mais eux, ils ont de bonnes raisons. Et puis aussi, donner à la notion de succès ou de victoire, ou de défaite, son inverse, une dimension de récit, et une dimension politique, et pas seulement une dimension militaire. Comme je le dis dans le tract, il y a plusieurs scénarios dans ce qui se passe actuellement. L'Ukraine perd. Bon, à ce moment-là, le problème est réglé, mais ce n'est pas le cas. Deuxième scénario, l'Ukraine ne perd pas. Je ne dis pas l'Ukraine gagne, elle ne perd pas, elle ne perd pas tout. Et comme dit Clausewitz, celui qui gagne, c'est celui qui ne perd pas. C'est là où on est. Sauf que dans ce cas-là, pour le Kremlin, c'est l'escalade. Donc on est dans la phase entre le scénario 2 et le scénario 3. J'ai écrit ça le 14 avril, parce qu'il fallait quand même éditer le texte. Et à un moment, vous posez la plume en vous disant, oh là là, est-ce que ce que j'écris tiendra la route demain matin, avant même la publication. Donc il faut un peu réfléchir quand même, surtout la nuit. Celui qui gagne, c'est celui qui ne perd pas. Mais dans ce cas-là, il y a escalade. Actuellement, on est dans une période d'escalade. qui se traduit par la destruction de tous les réseaux d'eau potable et d'électricité. C'est la méthode d'Hitler avec les V2 contre Londres, hein, en 1940-41-42, avec l'espoir de démoraliser la population. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. Vous avez, comme moi, des images de ces gens qui sortent dans les ruines, les survivants, hein, les enfants, les femmes, tout le monde, hein, les anciens, et puis ils prennent des briques, et puis ils font des tas, et puis ils reconstruisent. C'est le lendemain de la destruction d'une centrale électrique à Kiev, il y avait un autre réseau qui fonctionnait. Donc ça a exactement l'effet inverse. Donc c'est très important cette question-là, parce que qui va décréter à un moment ou à un autre, quelqu'un dira, il y a des fêtes militaires. Même tactique, c'est l'enjeu de Kherson. Et là, Zelensky, qui est un acteur à l'origine, joue très bien son rôle de président. En plus, il est président, mais comme vous le savez sans doute, il avait tourné une série où il jouait le président. Hein ? Et donc, c'était un peu l'homme de la situation, et puis il est resté sur place. Alors actuellement, il y a des rumeurs qui circulent dans un parti français dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, faisant croire que l'ambassadeur de France à Kiev, Étienne de Poncin, qui est un ami, avait démissionné, et que de toute façon, Zelensky, il était dans un studio en Pologne pour ses causeries du soir. C'est ça la guerre hybride.
Oui. Ce qui est faux.
Vous comprenez ? Ben, évidemment, Étienne de Poncin a dit, s'il vous plaît, enlevez ce message. Et il a été enlevé tout de suite, d'ailleurs. Mais ça vient quand même de responsables politiques, d'ailleurs, d'une région pas très loin d'ici. Et donc, ça, il faut qu'on s'y habitue. Alors, je crois que... Quelle attitude ? Parce que je sais que l'hebdo Le 1 est très, très soucieux d'anticiper ou d'accompagner les inquiétudes, les questionnements, et surtout de solliciter les uns et les autres pour des éléments de réponse. Hein. Vous le faites là, et vous allez le faire, je crois, la semaine prochaine. De nouveau, un effort d'analyse par soi-même, de critique de ce qui circule sur les réseaux sociaux, d'interrogation des sources. Donc lucidité et, je dirais, sang-froid. Plus il y a de menaces, plus il y a de rhétorique, plus il faut garder son sang-froid. Alors, et avec une vision de longue durée. Il ne faut pas être dans le présentisme. Il faut voir les choses en longue durée.
Avant, Michel, qu'on quitte le théâtre ukrainien et qu'on aille sur le reste du monde, deux questions tout de même encore sur les intentions de ce que vous appelez le titulaire du Kremlin. C'est d'une part, quel est l'enjeu du vocable nucléaire ? On a beaucoup parlé de Tchernobyl, on a beaucoup parlé d'une sorte de menace comme ça, un peu sous-dite, en sous-texte du nucléaire. Première question. Et deuxième question, la part dans cette guerre de ce qu'on appelle la cyberguerre, du hackage de lieux stratégiques, du rôle des drones, est-ce que finalement cette guerre aujourd'hui a un visage qui n'aurait pas pu être celui d'il y a 10 ans ou a fortiori 20 ans ?
Sur le premier point, d'abord, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions. Je trouve que moins on en parle, mieux c'est. Et là aussi, il y a un tabou qui a été...
On parle du nucléaire.
Du nucléaire, cette menace permanente. On n'avait jamais vu ça depuis 1945. D'ailleurs, en 1945, il n'y a jamais eu de menace.
Oui.
Il y a eu un passage à l'acte.
Il y a eu un passage, vous vous souvenez, Trump et le Coréen.
Oui, qui mais bon.
Hein, ça, il y a eu un petit moment où ça s'est tendu.
Oui, oui, puis avec les Chinois aussi, à ce moment-là, le chef d'état-major des armées américaines a appelé son homologue chinois pour lui dire qu'il ne fallait pas en tenir compte. De toute façon... c'est pas quelqu'un tout seul qui appuie sur un bouton, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est une codécision. Mais là, on peut pas en dire plus. C'est une codécision, même en Russie. Mais et c'est pas nouveau cette menace, parce que ça a déjà été utilisé pendant l'annexion de la Crimée. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Alors, il y a deux remarques un peu contradictoires à faire. Premièrement, dans des situations de tension, de conflit croissant, les mots précèdent le passage à l'acte. Alors, je prends un exemple qu'il ne faut pas appliquer, je dirais, transposer à la lettre, mais vous vous souvenez du Rwanda, la radio des mille collines. Qu'est-ce qu'on disait ? Les Tutsis sont des cafards. avant de massacrer, il faut d'abord, parce que ce n'est pas simple hein, de massacrer son voisin, il faut un petit effort, si j'ose dire. Donc il faut d'abord le déshumaniser. Donc quand on dit que les Tutsis sont des cafards, que c'est répété à longueur de dans les collines du Rwanda, ben on finit par le croire, puis un cafard, ça s'écrase. Donc le fait que ce mot nucléaire, d'abord nucléaire civil, Tchernobyl, Saporier, circule en permanence, est inquiétant. C'est-à-dire, il faut prendre ça au sérieux parce que ça peut être l'annonce, plus ou moins inconsciente, d'un possible passage à l'acte. Qu'est-ce qui empêche ce passage à l'acte ? Plusieurs choses. D'abord, le fait qu'avait été rappelé par Jean-Yves Le Drian quand il était encore ministre des Affaires étrangères, il a quand même rappelé, début mars, que la France aussi et l'OTAN, l'Alliance Atlantique, avaient une dimension nucléaire. Les Américains ont fait passer toute une série de messages par leurs canaux habituels, secrets, mais efficaces. Et puis, il y a deux acteurs très importants qui peuvent empêcher ça, c'est les Chinois et les Indiens. Et je crois, on croit savoir que le président chinois aurait dit, bon, très bien, vous luttez contre les États-Unis en Ukraine, vous voulez vous protéger, très bien, mais pas d'usage du nucléaire, parce que ça serait la fin du fonctionnement du système international depuis 1945. Donc il faut garder son sang-froid. Je dirais, moi on en parle, mieux c'est, mais il faut quand même prêter l'oreille pour voir à quel moment les mots sont prononcés. Le titulaire du Kremlin est un bon élève de Staline dans la maîtrise du calendrier de ses annonces et de ses actions. Quand Guterres, secrétaire général des Nations Unies, visite Kiev, Kiev est bombardé. Le message, c'est « vous mêlez pas de ça ». Vous voyez, à chaque fois, il y a des messages. Et c'est ça le travail du diplomate ou de l'analyste, c'est d'interpréter. Et là, ça c'est, si vous voulez, il y a une rationalité dans le choix des moments. Donc ce n'est pas le nucléaire, c'est quand est-ce dit ? Dans quel contexte ? Tout le temps, il faut reconstitutionnaliser, mais ça, tout le monde peut le faire. Mais un petit travail de mémoire. Deuxième question.
Oui, c'était sur la cyberguerre, les drones, le hacking, toute cette technologie nouvelle. On a vu aussi par ailleurs que l'Ukraine a bénéficié d'un certain nombre d'une logistique numérique, Internet.
Oui, etc. Parce que une des premières cyberattaques russes a visé un satellite américain de communication qui s'appelle Viasat. Il a été en gros neutralisé. Et donc c'est un personnage un peu curieux, mais bon, Elon Musk, qui a mis son réseau Starlink au service des Ukrainiens. Donc, si vous voulez, des satellites, vous pouvez couper des câbles sous-marins, mais les câbles sous-marins, ils sont redondants. Donc s'il y en a un qui est coupé, on peut passer par celui d'à côté. Parce que c'est en temps réel. Les satellites, c'est plus compliqué. Les oléoducs, les gazoducs, les réseaux électriques, il faut un certain temps de... Donc la guerre hybride consiste à utiliser, si vous voulez, tous les éléments du spectre, comme disent les militaires, pour gêner, évidemment, pour gêner l'autre. Sauf que souvent, ça a l'effet inverse.
Oui. Alors, je vais pas vous engager à faire des pronostics, mais simplement, vous disiez tout à l'heure... On a gagné la guerre quand on ne l'a pas perdue. Est-ce que la Russie peut perdre cette guerre ?
Elle peut perdre la bataille de Kherson. Hein. C'est l'enjeu là, des semaines qui viennent. Il faudrait qu'il arrête de pleuvoir. Et c'est absolument vital pour les Ukrainiens. D'autant plus que, à la différence de Mariupol, et on n'en parle pas parce que les Ukrainiens maîtrisent le récit, mais c'est une ville qui s'est rendue sans combattre. Et sans être bombardé. Donc le système administratif de Kherson était vérolé, si vous me perdez l'expression, de l'intérieur. Parce que c'est la clé de la Crimée. C'est la clé de la Crimée. Donc les Ukrainiens ont une revanche à prendre presque sur eux-mêmes hein, pour récupérer cette ville. Et lorsque cette ville sera reprise, j'irais, elle a plus d'importance politique, elle a une importance militaire parce que c'est de la région de Kherson que par le fameux grand canal du Nord qui alimente la Crimée en eau, Et la Crimée, c'est un peu comme le karst, hein, c'est calcaire, il n'y a pas d'eau. Donc c'est très important, mais symboliquement, si vous voulez, ça sera évidemment présenté comme un succès militaire, et donc ça sera perçu à Moscou comme une défaite. Et comme je le disais tout à l'heure, seule une défaite militaire peut faire bouger les lignes. Qu'est-ce qui peut se passer? J'en sais rien. Après le titulaire du Kremlin, il peut y en avoir un autre qui est pire. Hein, n'imaginez pas un pro-occidental sympathique et souriant. Le risque, c'est d'entrer dans ce qu'on appelait dans l'histoire russe le temps des troubles. Parce que vous avez des milices, les gouverneurs sont en train de créer des milices, vous avez des services concurrents, vous avez des mercenaires. Il y a beaucoup d'enjeux économiques et de matières premières. Donc on peut avoir un temps des troubles. Mais la ligne générale, c'est une ligne de déclin. Mais un empire en déclin est agressif, justement, parce qu'il se débat.
Oui. Alors, on pourrait évidemment passer tout notre temps sur cette situation à la fois géopolitique, militaire de la Russie et de l'Ukraine. Mais ce serait dommage parce que ça nous priverait de votre analyse, j'allais dire, du grand tableau. Michel, aujourd'hui, il y a une vingtaine de conflits à travers le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, en quels termes ils se posent? Parce qu'on comprend qu'il y a des enjeux de pouvoir, des enjeux de territoire, de frontières. Vous parliez de l'eau tout à l'heure pour la Crimée. Il y a des enjeux d'accès aux ressources naturelles. Est-ce que vous pourriez, en quelques minutes, nous brosser justement l'état belliqueux de la planète aujourd'hui?
Il n'y a pas beaucoup de guerres entre États. Hein, ça, c'est le premier point. Il y a les tensions Arménie-Azerbaïdjan, Yémen, Arabie Saoudite, les Émirats, mais la dimension... Alors, Arménie-Azerbaïdjan, c'est typiquement un problème de frontière. Hein. Idem, Kirghizistan, Tadjikistan, pareil, mais c'est pas nouveau. Donc ça, c'est, je dirais, c'est conflit bilatéral classique, problème non réglé qui traîne. Voilà. Mais le plus souvent, ce sont vrais des conflits entre ce que j'appellerais des centres de pouvoir. Alors, l'exemple le plus tragique, parce que c'est un pays formidable et qui était bien parti, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est un beau pays, mais c'est un empire. Et dans les empires, il y a toujours des centres de pouvoir. Pendant longtemps, c'était les Amaras des Hauts Plateaux. Ensuite, ça a été les gens du Tigré qui ont lutté contre la dictature de Mengistu. Et aujourd'hui, le président est un Oromo. Donc, vous avez trois centres de pouvoir et... En général, dans ce genre de situation, le centre de pouvoir favorise en investissement sa région d'origine. Donc pendant longtemps, tous les investissements allaient dans le Tigré. Et donc ça, c'est un conflit interne. Les dimensions externes sont secondes. Après, vous avez certainement quelque chose de très catastrophique dont on parle très peu parce qu'on se concentre sur l'Ukraine. C'est ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y a une dizaine de mouvements de guérilla qui sont tous soutenus par l'Ouganda et le Rwanda qui veulent mettre la main sur les ressources en terres rares, en coltan, en tout ce qu'on a dans nos portables. Hein, une partie, ça vient de là-bas. Donc il y a des enjeux économiques avec des ingérences extérieures. Et les ingérences, plus un conflit dure, plus il y a d'acteurs extérieurs. Hein, le cas, c'est la Libye. Hein, Libye, grande erreur de la France. En tout cas de ses dirigeants de l'époque. Très, très grande erreur, parce qu'on n'avait pas prévu le service après-vente. Hein, on n'avait pas de plan politique, on n'a pas écouté le président du Niger et les Italiens. On s'est lancé là-dedans pour des raisons sur lesquelles je ne veux pas revenir. Mais maintenant, vous avez les Russes, vous avez les Égyptiens, les Émiratis, les Français, les Britanniques, les Italiens. Il y a du pétrole, il y a des enjeux, tout le monde s'en mêle. Donc, le profil général, ce sont des tensions internes entre centres de pouvoir, pas de compromis, conflits qui durent et qui appellent des interventions extérieures. Il y a la question du Myanmar dont je n'ai pas le temps de parler, mais là vous avez une dictature militaire épouvantable avec une armée qui justifie son maintien au pouvoir avec des budgets importants. En essayant de réduire les oppositions des groupes ethniques non dominants des périphéries du Myanmar.
Le Myanmar, vous nous...
La Birmanie. La Birmanie. Hein, Birmanie. Voilà, pleine montagne, etc. Mais c'est l'histoire de l'armée turque. Hein. L'armée turque a entretenu les conflits du Kurdistan, parce que c'est comme ça que vous justifiez votre budget. Hein, s'il n'y a pas de conflit, pas besoin d'avoir un budget important. Et puis, il y a l'élément djihadiste, le djihadisme interne ou international... Mali hier, Mali aujourd'hui, Burkina, Somalie, nord du Mozambique. Là, c'est clairement un conflit sur la conception de l'organisation de la société. Tous ces gens veulent vraiment imposer la charia. Vraiment. Hein? Comme on veut, comme on voile les femmes en Iran. C'est une vraie conviction. Hein? C'est pas, y a pas d'enjeu économique derrière là. Hein? C'est de l'idéologie. C'est de l'idéologie et en face de ça, on a des coups d'État successifs parce que aucun gouvernement n'est capable de rétablir la sécurité, parce que ce n'est pas d'abord des problèmes militaires, ce sont des problèmes de développement, des problèmes fonciers. Les questions foncières, qu'Éric connaît bien dans son passé, hein, grand reporter sur les questions de développement en Afrique, hein, il y a des textes qui en témoignent, c'est fondamental les questions foncières, surtout lorsque la population augmente rapidement. Donc ça, c'est des conflits qui sont devant nous.
C'est ça.
Hein, les questions foncières. Le Sahel, une des clés, c'est pas seulement le djihad, c'est l'opposition entre les éleveurs et les paysans. Hein, c'est pas nomades sédentaires. Les éleveurs, les peuls. Hein, et les paysans, les terres de culture qui manquent, surtout quand le climat s'assèche. Donc, vous voyez, il y a toute une... Je dirais, il faut faire une typologie de... Là aussi, tout ne se ressemble pas. Le mot guerre doit être décliné.
C'est ça. Hein,
en fonction de... La localisation. À chaque fois, faut évidemment repérer quels sont les acteurs.
Oui, vous disiez qu'à une époque, c'était beaucoup l'Afrique, l'Asie du Sud-Est. Après, ça a bougé aussi vers l'Asie centrale. Donc, ces théâtres de conflits, de tensions aussi ont bougé géographiquement.
Oui, non, bien sûr. Il y a aussi des situations où les choses se règlent. Bon, les Vietnamiens, je reviens, les Vietnamiens ont gagné la guerre contre l'armée française, puis l'armée américaine. En général, si je repense à l'Ukraine, c'est les petites nations qui gagnent. Je ne parle pas de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les petites nations qui gagnent. Les Afghans ont gagné contre l'armée rouge et contre l'armée américaine. Donc il faut se souvenir de ça, hein, parce que je dirais la vérité historique est de leur côté. Hein,
on parlait beaucoup de guerre asymétrique.
Oui, c'est ça. Ben, c'est, alors, une guerre asymétrique, ça c'est encore les armées en France en particulier, c'est le fait de mettre des moyens d'État moderne puissants pour lutter contre des mouvements,
des guérillas
qu'on arrive assez bien à localiser et on a des moyens supérieurs parce qu'on a des satellites de renseignement, on a des hélicoptères, des moyens d'intervention. Mais les armées françaises ont mis en garde les autorités françaises depuis François Hollande sur le thème il faut aussi considérer que vous avez des États qui montent en puissance, qui utilisent la globalisation économique et financière pour renforcer leurs capacités militaires au service de projets régionaux, néo-impériaux, et il faut être prêt à ce qu'on appelle dans le jargon, c'est pas du jargon d'ailleurs, des conflits de haute intensité. Il y a d'ailleurs un rapport parlementaire de février sur ce sujet qui est tout à fait intéressant. Donc c'est beaucoup plus difficile de faire face à ce type de risque que d'affronter des groupes djihadistes dans le nord du Mali.
Oui. Alors justement, dans ce contexte-là que vous décrivez, qui montre un monde dangereux, comment se positionne l'Europe ? On a vu l'Allemagne, ce qu'on n'aurait pas imaginé il y a encore quelques années, faire des efforts considérables en termes d'armement ou de réarmement. Qu'est-ce que peut l'Europe et qu'est-ce que veut l'Europe ? Est-ce qu'elle veut quelque chose d'ailleurs ?
Vous parlez de l'Union européenne.
L'Union européenne, bien
d'accord.
Sûr.
L'Union européenne n'est pas un État. L'Union européenne n'a pas de fonction régalienne. L'Union européenne n'a pas d'armée.
Hein, vous avez. Se repose toutes ces questions. D'ailleurs.
Oui, mais je veux dire, bon voilà, c'est comme ça. Hein. Dans la situation actuelle, c'est très très compliqué parce que. La France a toujours maintenu une ligne de puissance, hein, membre du Conseil de sécurité avec droit de veto, capacité nucléaire effective. Avec le départ des Britanniques, la France est le seul pays doté d'armes nucléaires dans l'Union européenne. Ça ne plaît pas à tout le monde. Pourquoi voulez-vous que la sécurité de l'Allemagne soit déléguée à la France ? Pourquoi voulez-vous que la sécurité de la Pologne soit déléguée à l'Allemagne ? C'est là l'utilité du grand allié outre-Atlantique. Je ne suis pas en train d'en faire l'éloge. Mais je dis qu'on est dans un système où, au fond, la puissance d'équilibre est extérieure à l'Europe. Ça évite de se poser la question de savoir qui est le leader en Europe. Parce qu'on s'est trop battu sur cette question-là. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième point, les Polonais s'arment aux États-Unis. Le chancelier Scholz opère un revirement en disant « il faudrait qu'on soit plus sérieux en matière de défense ». Il débloque 100 milliards d'euros pour acheter des F-35 américains et des frégates américaines. Et quelques petits avions européens. Et les programmes franco-germano-espagnols d'avions du futur ou de chars sont retardés. C'est des programmes à 2040, c'est retardé. Mais est-ce qu'il peut en être autrement ? Il en sera autrement le jour où un président américain, que je ne veux pas nommer non plus, pour d'autres raisons, déciderait de retirer les États-Unis de l'OTAN. On peut quitter l'OTAN. Il y a eu cette menace il y a quelques années de l'ancien titulaire de la Maison-Blanche.
Dont vous dites moins, pas le nom comme pour l'autre de Kremlin.
Je veux dire, parce que l'ombre pèse le mardi 8 novembre prochain.
Oui, donc,
vous savez, quand on nomme, ça arrive. J'ai un comportement magique. Quand on nomme, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut arriver. Si on nomme pas, on réduit le risque.
D'accord, j'ai compris votre technique.
Bon, c'est un petit truc pour moi-même. Mais si vous voulez, à un moment, on voit déjà des républicains, des représentants républicains qui disent, notamment le chef de la majorité de la minorité républicaine à la Chambre des représentants, qui dit le chèque en blanc pour l'Ukraine, c'est fini. Mais pourquoi voulez-vous que quelqu'un qui vit dans l'Ohio dépense de l'argent pour l'Ukraine ? Il ne sait même pas où c'est. Donc, si vous voulez, on est dans une phase où les peuples se replient un peu sur eux-mêmes ou sur leur environnement proche. Donc, il n'y aura qu'à ce moment-là peut-être en européen, on essaiera de faire une coopérative, hein, une coopérative de défense. Hein. Mais vous voyez, une armée européenne, dans quelle langue ?
Qui est le chef ? C'est un vieux serpent de mer, la CED. Qu'on avait appelé
mais si
la
vous voulez,
CED
c'est, et l'industrie, c'est pareil. Vous avez des programmes communs, mais certes, ceux d'entre vous qui ont été dans l'entreprise le savent. Il ne peut pas y avoir 3-4 directeurs ou PDG. Il faut qu'à un moment, quelqu'un décide. Et donc, c'est très, très compliqué, ces questions-là. Sur l'idée du danger, les sondages très récents montrent qu'en effet, en France, on pense que le monde est dangereux. Et ça appelle une question qui sera abordée dans le 1 la semaine prochaine, c'est est-ce qu'on est prêt à mourir pour ces valeurs ? Puisque le plus jamais ça n'est plus aussi sûr qu'avant. Oui. Et la réponse est extrêmement intéressante parce qu'elle est positive à 52%. Sondage septembre, début octobre de la Fondation Jean Jaurès. Et elle est de 64% pour les Français qui s'intéressent beaucoup à la politique. Est-ce que vous êtes prêt à mourir pour vos valeurs ? Et donc c'est ça la question qui est posée à travers cette agression en Ukraine, qui n'est pas une agression contre la France, bien entendu, on est prudent, on aide, pas tellement d'ailleurs, on aide, mais on n'est pas en première ligne, hein, en fourniture d'équipement. Mais, si vous voulez, on se rend compte que nos valeurs sont en jeu, la liberté, la souveraineté, le droit de choisir ses alliances, l'autodétermination, et ça nous parle. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de mouvement, spontané. C'est-à-dire que le tragique de l'histoire, eh bien, il est dans nos têtes aujourd'hui. Il est dans nos têtes. Et ce qui est très intéressant, je m'excuse par rapport aux cheveux blancs que je vois dans la salle, y compris d'ailleurs sur la scène pour moi, mais les moins de 35 ans se sentent plus engagés sur ces questions que les gens de mon âge. Alors que moi, j'ai été élevé dans les récits de la guerre. Donc le plus jamais ça, je sais ce que c'est. Parce que mon père m'en parlait tout le temps. Alors que, vous voyez, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ça veut dire aussi que nos dirigeants politiques, de temps en temps, doivent nous parler de tout ça. Nous parler des questions de long terme. Hein, un petit peu un discours de la méthode. Hein, les questions de long terme, les enjeux pas dans des discours fleuves, évidemment, mais de temps en temps, quelques remarques, quelques initiatives. Ça se traduit du côté français par un attachement, en fait, à la construction européenne, même si on critique les modalités de détail.
Oui. Alors, avant qu'on prenne quelques questions, Michel, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a encore des gendarmes du monde ? Est-ce que les États-Unis, les Chinois, qui sont ceux qui, précisément, vous avez montré avec même pas mal d'ironie les faiblesses de ce que peut être une riposte, une réponse européenne, je parle de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut encore parler de gendarmes du monde ? Est-ce qu'il y a des puissances qui ont, j'allais dire, droit de vie ou de mort sur des peuples, sur des États, sur des voisins, des adversaires ?
Il est clair que jusqu'aux élections de mardi prochain aux États-Unis, les États-Unis ont repris cette fonction en Europe. C'est clair.
Obama avait plutôt...
Obama, il est dans la tendance générale parce qu'il pense, probablement juste titre, que l'avenir, non pas des États-Unis, mais de la primauté américaine, parce que les Américains sont incapables de ne plus... de s'imaginer comme n'étant plus le numéro un, hein, à primacy, la primauté. Donc c'est ça ce qui est insupportable pour eux. Hein. Donc il dit, moi, mais notre problème c'est la Chine. D'ailleurs, ils sont obsédés par ça. Et ça va revenir. L'Ukraine, la Russie n'est pas, l'Europe n'est pas un problème. Simplement, dans l'attitude américaine, il y a un lien qui a été exprimé très très bien par le secrétaire d'État Antony Blinken, quand on dit il faut infliger une défaite stratégique à la Russie. Afin que ce, je cite sa déclaration au Sénat de l'anglo-américain, que ce message soit compris par ceux qui seraient tentés de suivre la même voie. Donc, défaite stratégique de la Russie en Ukraine, message à la Chine et à la Corée du Nord. Vous voyez, un gendarme, c'est quelqu'un qui est capable d'intervenir sur plusieurs théâtres à la fois, en réalité. C'est ça.
Oui.
La France n'est probablement pas capable de le faire. C'est, en termes stratégiques, c'est ça un gendarme. Je peux intervenir dans deux théâtres très séparés.
C'est ça. Moyenne puissance, disait l'ambassadeur Guy Georgi. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle ? On peut tout à fait les écouter. Il y a même un micro qui est à votre disposition. Oui, madame. Devant, alors attendez, parce que tout le monde vous entende. On a quelques minutes encore.
Merci beaucoup, d'abord, parce que vous l'éclairez d'un jour nouveau pour ma part. Et vous dites que plus il y a d'intervenants extérieurs, plus un conflit dure. Mais s'il n'y a pas d'intervenants extérieurs, nous devenons spectateurs d'une catastrophe, alors.
Je ne pensais pas à l'Ukraine. Je pensais à la Libye, peut-être à l'Éthiopie, parce que l'Érythrée s'en mêle, les Saoudiens, tout le monde s'en mêle, en fait. Le Mali aussi, hein, y a des acteurs extérieurs, étatiques ou non étatiques. Dans le cas de l'Ukraine, c'est différent, parce que dès le 24 février, le choix des peuples européens était fait. Hein, c'est-à-dire, c'est inacceptable. On ne peut pas laisser passer ça. Parce que si on laisse passer ça, qu'est-ce qui se passera demain ? Ben, ça ne sera plus le monde russe, ça sera l'Empire soviétique. Donc les Baltes, et puis pourquoi pas la moitié de la Pologne qui a été sous contrôle russe jusqu'en 1919. Pourquoi pas le nord de la Roumanie. Vous comprenez, c'est ça le... Et je crois qu'on l'a... Il y a eu une espèce d'unanimité des dirigeants européens des opinions, le mot opinion est trop fait, mais des nations, enfin de nous-mêmes... Il n'y avait même pas de discussion. Et il fallait héberger des réfugiés et puis voir comment on pouvait les aider en fonction de ce dont ils avaient besoin. Donc vous avez besoin de canons à très longue portée, les Césars, on va vous en fournir, on va prélever ça sur ce qu'on est en train de livrer au Danemark, on va passer un accord avec le Danemark, et puis on va détourner ça en direction de l'Ukraine. Évidemment, les États-Unis et le Royaume-Uni avaient commencé bien avant, parce qu'ils avaient anticipé le conflit, ce que nous n'avons pas fait. Ni Français, ni Allemands, ni Italiens n'avaient anticipé le conflit. On ne voulait pas croire. Alors que les Britanniques et les Américains l'avaient anticipé depuis longtemps. Donc ils étaient prêts.
Une autre question ?
dans la... L'intervention parfois est légitime. Je suis désolé parce que quand on parle de guerre, je me souviens d'une discussion avec l'aumônier des armées qui est aujourd'hui archevêque de Strasbourg, Monseigneur Ravel. Il y avait cette idée de la guerre juste. On peut dire que la guerre de résistance que mènent les Ukrainiens est plutôt de l'ordre d'une guerre juste. En tout cas, c'est comme ça que nous, alors moi je me mets au même plan que la salle, hein, nous le vivons. Il n'y a pas de doute. Alors, combien de temps, ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est ce que je voulais compléter la question.
Une autre question, madame.
Je me trouvais en Roumanie lorsque la Russie attaquait la Moldavie. Et bon, les Roumains avaient vraiment très très peur. Quand je suis rentrée en France, je me suis rendu compte qu'on ne parlait absolument pas de ce qui se passait en Moldavie. Bon, et alors il y a eu d'autres attaques. Comment se fait-il, bon, vous expliquez que en Occident, on n'ait jamais réagi à toutes ces attaques successives de la Russie sur quand même un bon nombre
de pays que vous connaissez bien, cher Michel.
Alors, un nous collectif, nous sommes très ignorants de l'histoire de l'Europe centrale et orientale. Très, très ignorants. Notamment de tous les conflits de l'histoire longue et de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Moi, je me suis rendu compte de ça, évidemment, quand j'étais ambassadeur de France dans les pays baltes, basé à Riga, avant, pendant et après l'élargissement à l'Union européenne et à l'OTAN. Je recevais beaucoup de journalistes. L'ignorance absolue. Et comme on est ignorant, on achète le récit russe. Hein, ça, c'est une chose. Deux, c'est quelle est la place de la Russie dans notre politique extérieure, en Allemagne, en France, en Italie. Business. Un marché émergent jusqu'au 23 février. Un marché émergent, solvable, qui importe tout. 250 magasins Leroy Merlin. Le gaz, Total, c'est légitime. Je ne tape pas sur Total. On avait besoin de gaz russe. Renault investit 500 000 voitures. Il y a Carrefour qui a arrêté le col. 1500 entreprises françaises, 2500 entreprises allemandes. Un marché émergent solvable à 3 heures de vol de Berlin, 4 heures de vol de Paris. Donc on avait, si vous voulez, l'examen critique que nous devons faire, c'est comment l'économie, l'intérêt économique a pris le pas ou a surdéterminé notre politique extérieure. Ouais. Troisièmement, la Russie au Conseil de sécurité. On a commencé à se fâcher au moment de la Syrie, mais un certain aveuglement. Et puis cette stratégie russe, on recrute Schröder, hein, chancelier chez Gazprom, on a essayé avec Renzi, en France il y a quelques cas, hein, comme dit l'ancien ambassadeur de France en Russie, Jean-Maurice Ripert, très... j'ai vu passer beaucoup d'hommes politiques à Moscou qui ne repartaient pas les mains vides, formule diplomatique, interprétable comme vous voulez, hein, etc., etc. Donc il y a eu une stratégie d'influence, l'argent, cherchez l'argent, ça vous mène à la Russie. Et ça, ils l'ont bien compris, si vous voulez. Donc ça explique notre aveuglement. En plus, les Américains nous ont menti pendant la guerre du Golfe en 2003, donc on les a pas crus. En 2021, on les a pas crus. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Pourquoi ils viennent nous partager du renseignement? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est leur intention? On a mis beaucoup de temps, hein.
Oui. Alors, on a le temps d'une, justement, beaucoup de temps, très peu de temps. Une dernière question rapide, une dernière réponse rapide, voilà, pour libérer la salle pour la prochaine conférence.
Bonjour, je voulais savoir par rapport au rôle de la France dans un ancien précaré africain. Comment vous voyez l'évolution de la situation de l'action française au niveau géostratégique, militaire et global?
Où ça?
Sur l'ancien précaré africain.
Dans le précaré africain.
Oh là là,
si on voit ça sur le long terme, vous voyez des inflexions ou une stabilité?
On est parti.
J'ai passé 10 jours au Cameroun. Merci. En janvier à l'invitation de l'ambassade et de l'ambassadeur de France. Tout ce qui va mal en Afrique, c'est de la faute de la France et de la colonisation qui a quand même... C'est terminé il y a, si je sais bien compter, plus de 60 ans.
60 ans, oui.
Tous les problèmes de gouvernance sont assimilés à la France. Comme si la France avait des intérêts économiques majeurs partout. C'est vrai en Côte d'Ivoire, c'est vrai au Sénégal, c'est pas vrai au Mali, hein, et au Cameroun, presque pas. Hein, sauf c'est la Chine. Et donc le message de l'ambassadeur, c'était « oubliez-nous ». J'ai envie de conclure là-dessus. Oui. « Oubliez-nous ».
Merci beaucoup, Michel Fouché. Merci à tous. Alors, merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir. Ce cycle de conférences continue demain avec la menace nucléaire par un grand spécialiste qui s'appelle Benjamin Haute-Couverture à 10h30. C'est Laurent Grelsamer, cofondateur du 1, qui est dans cette salle, qui l'animera. On se retrouve aussi demain à 16h avec Nathalie Loiseau, l'ancienne ministre des Affaires européennes, qui a écrit un livre passionnant sur la guerre qu'on ne voit pas venir. Et on terminera sur les guerres africaines vendredi avec Vincent Hugeux et Michel Blanchet. Sachez que le stand du 1 est présent sur le salon du Brief, donc nous sommes partenaires, et Imane, qui est au fond de la salle, vous répondra à toutes vos questions. Et bien sûr, vous avez le tract Gallimard de Michel Fouché et l'aube sur l'Ukraine. Voilà, Michel parle beaucoup, il écrit beaucoup aussi. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup.